Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble en cette fin de semaine pour la suite et la fin de notre promenade dans le roman de Antoine Blondin, L'humeur vagabonde. Une meurtrière en deuil est assez troublante pour l'esprit. Les jurés, sortant des boiseries du fond en coulée d'insectes, ont accusé un petit choc. Ils ont salué ma mère d'un mouvement de tête imperceptible. Elle leur a répondu, bien qu'ils ne lui eussent pas été présentés, mais avec dignité. Et tout de suite, on en vient à parler de la Légion d'honneur de mon père, ce qui est vraiment parti de très loin. On dispute pour savoir s'il l'a refusée, l'ayant obtenue, ou si, la méritant, il ne l'a pas eue. On lit ces citations à haute voix, et il apparaît que cette diversion est favorable à la défense. Sur quoi l'audience est suspendue. Dans mon dos, j'entends Lucie Dupré dire à Coco Desraux: si le procès doit durer 2 journées, tant pis pour eux, ils me reverront habillé de la même façon. Dès la reprise, on lâche les témoins de ces gentils voisins qu'on juge au pied du mur mitoyen. Chacun parle longuement du cœur, du sien, de celui de Denise, de celui de ma mère, du mien. Pour le reste, personne n'a rien vu. Et le président est bien obligé de m'appeler à la barre. C'est le moment que tout le monde attend. Le clou de la réunion. Je m'avance sous une giboulée de magnésium. J'ai l'impression que Myriam a dû passer des commandes. Sur ma qualité de parent de l'accusé, on me dispense de prêter serment, ce qui est aussi injurieux que de l'exiger. Dans l'une ou l'autre occurrence, c'est vous prendre au naturel pour un menteur. Enfin, je ne serai pas damné, c'est toujours ça. Moi aussi, je voudrais bien étaler quelques sentiments qui me tiennent à cœur. Je n'en ai pas le loisir. Je dois parler balistique, emploi du temps, distance métrique, comme si Denise n'avait jamais été pour moi que ce cadavre oblique et que notre existence commune se fût réduite à cette mince minute où nous avons vécu dans les yeux l'un de l'autre. Par certains côtés, c'est voir assez juste. Notre aventure humaine se condense facilement. Il y a beaucoup de déchets. Mais pourquoi laisse-t-on les autres tripatouiller dans les miens? Pour situer cette minute, je crois détenir des coordonnées qui sont les coordonnées de l'âme. Je ne m'occupe pas de cela, dit le président, je vous demande des chiffres. Ces chiffres figurent déjà au dossier. Mais nous avons l'air de 2 gamins tellement surpris d'avoir réussi leur multiplication qu'ils en recommencent dans tous les sens, la preuve par 9. Au bout de 10 mois, nous en sommes encore à démontrer que ma mère a tué Denise en l'apercevant avec un homme. Ce que les enfants de l'année ont appris en naissant. Exaspérés, les Parisiens grondent un peu et le président menace de faire évacuer la salle. Il aurait aussi bien fait. Ce qui s'est passé ensuite aurait mérité de rester entre nous. Denise, ma mère et moi avons été précipités dans un cloaque commun sur lequel nos imaginations avaient peut-être navigué parfois, mais que nous n'aurions osé formuler. Des hommes indifférents l'ont cerné d'un trait atroce, sans y croire vraiment. L'éloquence a d'étonnant pouvoir sur les orateurs. Aujourd'hui encore, je me demande quel crédit il convient d'accorder à ces caricatures de nous-mêmes qui nous furent brandies par des manches gonflées de vent. Quand j'étais retourné à ma place, j'avais lu sur le visage de l'assistance une déception hargneuse. La première fusée avait fait long feu. On se demandait alors pourquoi tous ces gendarmes, ces issues gardées, ces fastes d'hermine, pourquoi cette femme âgée et absente dont la vie tenait dans un mouchoir de poche. Allons donc ! Le pavillon ne couvrait pas la marchandise. Le réquisitoire du procureur s'est chargé de la mise au point. Il a parlé de Phèdre et de Freud. Il a démontré les ressorts du penchant incestueux. Il a évoqué la maturité aride de ma mère. Sur ce terrain propice, se greffe une circonstance capitale. L'objet de cet amour, qui s'exacerbe dans la mesure où il ne peut affleurer, est un être fluctuant, dépourvu de volonté, incapable de faire le départ entre les influences qui s'exercent sur lui, ni les concilier. Le jour où survient une autre femme, cette balle de son passe un moment d'une main dans l'autre. Mais Benoît Laborie comprend qu'il n'a ni le désir ni l'ardeur de régner chez lui, et au destin de prince consort, il préfère celui de fils de la reine. Moralement, messieurs les jurys, voilà un homme qui retourne chez sa mère. Envisagez l'ivresse glorieuse de celle-ci, et un peu plus tard, la rage d'un caractère trempé dans un acier digne des Médicis lorsqu'elle s'aperçoit que sa proie lui échappe à nouveau. Car Laborie, vous le savez, n'est pas constant dans ses décrets et de certains signes annonce déjà son revirement. Alors cette femme se décide. Et l'instant même qui va consacrer le triomphe de sa rivale marque la mort de celle-ci. Ne cherchez plus le quatrième personnage, cet amant dont la seule évocation fait grief au souvenir irréprochable de la victime. Ce meurtre, monsieur les jurés, est un coup d'État. C'est pourquoi j'attends de vous un châtiment à l'échelle de ce crime royal. J'ai senti onduler l'échine du public. Il ne quittait plus ma mère du regard. On se payait sur la bête interdite, blessée sur le cuir, et que le froid envahissait. Les compères de Mauvezac murmuraient « Mais quand on pense qu'en 35, elle a fait des démarches pour qu'on lui accorde le bureau de tabac ?» Et c'était bien ce contraste entre l'apparence et le moteur profond qui stimulait le plus les imaginations. L'avocat de ma mère s'est entretenu un moment. J'ai cru qu'elle subissait une de ces défaillances cardiaques auxquelles elle était sujette depuis son entrée en prison. Mais l'avocat s'est levé aussitôt et a pris la parole. Il a rappelé mon enfance et les sacrifices consentis pour me conduire à l'âge d'homme, puis l'apparition de Denise dans la confusion qui suivit la débâcle, éclairant la ténacité avec laquelle cette intrigante avait exploité le désarroi des esprits. S'il est bon de ravaler la victime pour restreindre la portée du crime, il semblait plutôt que ma mère eût commis un acte de salubrité publique. Denise n'était qu'une goulue torturée d'appétit que ses pieds sur le sol n'empêchaient pas d'avoir la cuisse légère. Sa réserve ! Celle d'un être qui détourne le faisceau de ses énergies pour l'accomplissement de son plan et les mobilise dans les replis les plus obscurs de la conscience. Vous dites que son mari la déserte. Je vous réponds qu'elle l'évince. Conquérir l'homme pour s'approprier la terre, c'est le premier stade. Il est révolu. La voici pratiquement maîtresse du domaine. Elle va maintenant disposer de la terre pour satisfaire son besoin d'homme. L'autorité qu'elle en tire, les contacts qu'elle favorise, les prétextes qu'elle fournit font de l'exploitation de ce domaine un paravent propice. Métayer, journalier, homme de peine. L'expression est d'elle, messieurs les jurés. Tous y passeront. Mais une main s'interpose, celle qui a toujours intercédé en faveur du fils menacé, femme de la Renaissance, disait tout à l'heure monsieur le procureur général en parlant de ma cliente. Eh bien, soit, je l'admets. Mais femme de la Renaissance, comme ses mères à l'enfant ont concélébré les grands peintres de la nativité, son visage fervent se penche sur le petit être bafoué, dupé, vulnérable, que son amour, avant sa raison, lui ordonne de protéger. Amour charnel, si l'on veut, mais pas dans le sens abusif où l'entend monsieur le procureur général, amour dont l'objet s'incarne encore si profondément en elle que lorsque ma cliente tire ce coup de fusil pour suspendre la menace qui outrage la chair de sa chair, j'ose dire qu'elle se trouve en état de légitime défense. La cour s'est retirée pour délibérer. Ma mère a disparu entre deux gendarmes et j'ai appris qu'on lui avait fait une piqûre. Dans le flottement qui s'installait, Myriam se promenait d'un groupe à l'autre, hésitant à attacher sa conviction à l'une ou l'autre thèse, mais le côté Médicis de l'affaire séduisait davantage que son côté Botticelli. Elle ne s'est guère penchée vers moi, il est vrai qu'il ne restait pas grand-chose si l'on rapprochait les plaies des deux abcès ouverts par ces deux hommes et que l'on confondait leur sanie. Étais-je vraiment ce pantin, né d'une virago freudienne et veuf d'une catin bocagère? En condamnant ma mère à 3 ans de prison, les juges n'ont pas répondu clairement à cette question. Cependant que les gens se congratulaient selon la coutume, l'avocat de ma mère, particulièrement fêté par Myriam, a trouvé le moyen de me prendre à part. « Excusez-moi, monsieur, c'était la seule défense possible. » La préméditation morale ne pouvait manquer d'être retenue. Il était nécessaire d'exalter les mobiles. Votre mère vous fait dire que tout ce que j'ai plaidé est archi-faux. Je ne fais naturellement que transmettre. Mais je n'étais même plus bouleversé par l'éventualité de mes déboires conjugaux. La rectification de l'avocat ne retranchait rien ni n'ajoutait à mon malaise. C'était plutôt une sorte de vertige intellectuel devant ce problème insoluble, cette histoire sans mots de la fin. Le fin mot de l'histoire n'a pas encore été prononcé, dit Myriam, avec une conviction riche de sous-entendus. Elle se servait de cet argument pour ranimer l'intérêt qui fléchissait nettement autour de l'affaire Laborie depuis que le verdict avait été rendu. Nous étions rentrés le soir même du jugement avec l'assurance que ma mère, bénéficiant d'une remise de peine, sortirait dans quelques mois. Il n'y avait donc aucune raison de décommander la réception que les Bingeaux avaient soigneusement improvisée pour fêter ce qu'ils appelaient, faute de mieux, mon acquittement. Je ne pensais pas que Myriam irait jusqu'à suggérer qu'il s'agissait d'une erreur judiciaire. Des deux directeurs de journaux qu'ils avaient convoqués pour négocier la publication de mes mémoires, l'un n'était pas venu, l'autre ne paraissait pas très convaincu. De nouveaux faits divers le sollicitaient. « Dans les erreurs judiciaires, a-t-il répondu, ce qui nous intéresse, ce sont les victimes. » Myriam a longuement dormi avec cette idée. Puis un beau jour, reprenant le portrait de moi esquissé à l'audience, elle a entrepris de me présenter comme l'homme qui a failli être la victime d'une monstrueuse bévue de la société judiciaire. Ce ne fut qu'un bref ballon d'oxygène promptement épuisé. Ce genre d'homme est trop répandu.
Et on l'a comme pas vécu, ou peut-être pas assez, pas comme on aurait dû. Peut-on encore imaginer de nouvelles étendues, des rivières à traverser et même des fleuves en crue? C'est pas fini, on vient à peine de commencer. C'est pas fini, on peut encore se retourner. S'est-on ramassé, je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il a bien pu clocher à un moment, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait peut-être dû prendre le temps de souffler, de profiter de la vue. C'est pas fini, on vient à peine de commencer. C'est pas fini, c'est pas fini, on peut encore se réparer. La vie, elle a passé et on l'a comme pas bien vu. Les années ont filé beaucoup plus vite que prévu. C'est pas fini, on vient à peine de commencer. C'est pas fini, on peut encore se retourner. C'est pas fini, on peut encore se raccrocher à la poésie.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
L'humeur vagabonde, Antoine Blondin. J'ai quitté l'avenue Franklin Roosevelt le lendemain du dîner où les parents de Myriam m'eurent expliqué qu'ils n'avaient plus besoin de mes services. Ardoise, mon livre, était sous presse et sortirait, si l'on peut dire, à la rentrée. Le romancier allait enfin pouvoir passer la majeure partie de l'année en Suisse, pays sans graffiti, où son épouse répugnait jusqu'alors à séjourner, ayant le sentiment d'y perdre son inspiration. Je ne voulus pas encombrer plus longtemps ce qui me restait de famille, je pris congé de Myriam, en la remerciant pour cette étonnante période de ma vie et ce tour de manège qu'elle m'avait offert. Elle me répondit « C'est ta mère, au fond, qu'il faudrait remercier, parce que sans elle... » Dans ces instants-là, je crois qu'elle se faisait plus dure ou plus sotte qu'elle n'est. Je fus néanmoins choqué de ce que les Bingeaux n'eussent pas exigé autrement de précision sur ce que j'allais devenir. Je ne me sentais pas encore l'envie de retourner à Mauvezac. Je craignais l'hostilité du village, la solitude, mes fantômes. Et puis, il est difficile de se déprendre de Paris, où régnait pourtant une même solitude peuplée par les mêmes fantômes. Vidalin, à qui j'avais téléphoné dans l'après-midi, était parti en congé. Je le rappellerai peut-être au mois de septembre. Ma reine était à Deauville, où elle faisait aux ambassadeurs des conférences contradictoires avec Jean Casal, dont le retentissement parvenait jusqu'ici. C'est machinalement que mes pas m'ont conduit vers le quartier Pereire, tant échevillé en l'homme le goût des cantons, des habitudes et des cycles saisonniers. J'ai reconnu la petite plaque noire de l'hôtel et le tapis en dents de scie qui débouche sur le trottoir. Peut-être la négresse m'attendait-elle devant le miroir. J'ai eu l'impression que tout allait recommencer. Je suis monté. J'ai sonné. Maintenant, j'entends le pas du patron. Il va me dire que la police me convoque. On va me rendre mon identité. Je vais pouvoir partir pour Mauvezac. Denise et les enfants seront à la maison. La chaleur qui s'est installée depuis le mois de mai, écrase le toit du wagon où nous nous tenons dans nos costumes de globe-trotters, la bouche un peu tordue comme les naufragés d'un radeau qui n'aurait jamais vu la mer. Mon vis-à-vis, qui porte une ridicule petite casquette de jockey, revient du couloir, où il est allé se dégourdir un peu. Je dois me ramener mes jambes sous la banquette pour lui faire de la place.
« On n'est pas près d'arriver au bout, » dit-il, comme pour s'excuser.
Le compartiment soupire car la sécheresse ajoute à notre désarroi. Elle nous donne soif. Une jeune femme, les cheveux plaqués par la sueur, perd son fond de teint en de longues rigoles. Elle s'est vaguement assoupie et sa jupe découvre ses genoux de cailloux durs marqués de cicatrices que nous lorgnons de temps en temps pour nous distraire. La pelote de laine qu'elle tricotait se déroule le long de son flanc inerte. Elle n'a même plus le geste automatique des débuts pour la retenir.
J'irai bien chercher une bouteille,
déclare un petit homme maigre qui coince une épuisette entre ses cuisses. Il soulève son ample béret basque, s'évente, le replace scrupuleusement sur son crâne devant le reflet d'une glace de poche.
Ils ont décroché le wagon-restaurant, répond en riant le monsieur couperosé et décoré qui tape le carton dans un coin fenêtre avec la religieuse.
Baisse toujours la vitre, dit le pêcheur de crabes.
Des clous, fait la religieuse, pour rattraper toute la poussière sur ma cornette, je ne suis pas bonne.
Seuls, les deux Russes se taisent et ne dorment pas. Il regarde fixement une vue de puits de dôme encadrée au-dessus de ma tête. Leurs bagages cossus en pur cuir envahissent le filet. La jeune femme ouvre les yeux, se redresse pour voir où l'on est. Elle esquisse un sourire.
« Tu ne sais pas ce que je viens de rêver, » me dit-elle.
Car dans ce train-là, tout le monde se tutoie.
« Dolores !» C'est le nom de la jeune femme, ne m'a pas dit « J'ai rêvé que le train roulait ».
Elle sait que c'est impossible. Il est rangé contre un quai un peu à l'écart et depuis 3 semaines, nous venons passer 8 à 10 heures par jour dans ce même compartiment où nous avons nos places retenues. Nous maugréons pour la forme, mais nous ne céderions pas cette place pour un empire. Aujourd'hui, il paraît que nous avons du retard, c'est pain béni. Les figurants du cinéma partagent avec les taxi-girls, les taxi-boys et les taxis tout court le privilège de fonctionner à des tarifs exorbitants passé 11 heures du soir. Ça ira chercher dans les 1900 francs, plus quelques indemnités diverses, moins quelques prélèvements obscurs. Le régisseur nous a prévenus.
« Tenez-vous bien tranquille, en ce moment le patron tourne la scène de la machine haut le pied sur le trottoir 22. Une machine haut le pied, on n'en a pas toujours une sous la main, mais juste après ça, ça va être à vous.
Ensuite, vous pourrez rentrer à la maison. » Alors nous attendons que ce soit à nous, sans impatience véritable. Comment pourrions-nous avoir une maison, nous qui sommes tour à tour grenadiers de la garde, cheminots, gladiateurs, millionnaires d'un jour ou même martiens? Nous qui vivons dans une dimension de l'existence où les locomotives sont sur une voie, les wagons sur l'autre.
Et pourquoi ce train se mettrait-il en marche?
Ma mère est morte à la prison en emportant à son tour les clés. Le procureur de la République doit être satisfait. Je ne peux plus retourner chez ma mère, du moins pour le moment, ni chez ma femme. Mes enfants sont dans un château au bord d'une route. Je ne vais les voir qu'une fois par mois, mais ils passent une course cycliste tous les dimanches et ils ont quand même la joie de se précipiter avec les autres enfants vers les barrières de la colonie.
Non, Dolores m'a dit, j'ai rêvé qu'on me donnait un bout de rôle.
Puis elle a repris sa posture, comme nous tous. La posture qui nous est assignée dans ce scénario dont nous ne connaissons jamais que le fragment qui nous concerne, et encore. Les bouts de rôle, ça n'a qu'un sens. Je suis payé pour le savoir. On s'en remet mal. On ne sait plus si l'on est d'ici ou d'ailleurs. Des charmes contradictoires continuent de vous suivre, qui vous divisent et finalement vous paralysent. On n'est plus que de nulle part et meurtri.
Il faut bien en revenir à la figuration, qui est un art de l'esquive. Pas pris, pas vu. C'est notre maxime quotidienne. La caméra rejette celui qu'elle a repéré. Tant que nous ne tombons pas sous son œil, nous pouvons revenir le lendemain accomplir notre simulacre. Chacun de nos jours est impliqué par notre néant de la veille. Artiste, bien sûr, artiste, comme tout le monde, mais artiste de complément. On n'exige rien de nous que cette minceur pelliculaire entre la présence et l'absence. Nous sommes là pour faire nombre. Tout ce qu'on nous demande, c'est de ne pas bouger. Et pourtant, tel que nous voilà dans ce wagon immobile, nous sommes ceux qui ont eu l'humeur vagabonde. C'est la nuit, maintenant. Manteau des déracinés. Sous la veilleuse qui veille quoi ? La religieuse se prend à égrener son chapelet. Le monsieur décoré se déchausse en douce. Le pêcheur remaille son filet. Le vieux jockey se sent le derrière entre deux selles. Les archiducs s'endorment au garde à vous. Dolorès achève des lainages pour ses enfants qu'elle n'achève pas. Et moi, j'attends que les communications soient rétablies entre les êtres. Un jour, peut-être, nous abattrons les cloisons de notre prison. Nous parlerons à des gens qui nous répondront. Le malentendu se dissipera entre les vivants. Les morts n'auront plus de secrets pour nous. Un jour, nous prendrons des trains qui partent. Voilà donc pour ce soir, en cette fin de semaine, la fin de ces moments extraits du roman de Antoine Blondin, L'humeur vagabonde. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour une autre lecture. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.